Bonjour, merci d'être fidèle au Grand Face à Face, le programme de l'émission jusqu'à 13h, vos rendez-vous du samedi avec la semaine des humoristes et le duel Natacha Polony-Gilles Finkelstein et puis le débat, l'ère du temps est-elle aux passions tristes? Notre époque est-elle vraiment dominée par le ressentiment, la colère ou l'indignation? C'est la thèse de l'un de nos grands sociologues dans un essai passionnant qui vient de paraître et qui décrit l'effacement de la question sociale et le triomphe du nationalisme, de l'identité, de la peur. François Dubé publie Le temps des passions tristes aux éditions du Seuil. Rendez-vous avec lui dans une demi-heure.
France Inter, le grand face-à-face. Ali Badou.
Avec Natacha Polony et Gilles Finkelstein, mes camarades du samedi. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Avant votre duel, la semaine des humoristes de France Inter. Hier, c'était la journée internationale des droits des femmes et une étude de l'INA mettait en lumière le faible temps de parole des femmes à la radio et à la télé. Écoutez l'analyse de Frédéric Sigrist.
Les femmes auraient moins d'un tiers du temps de parole à la télé et à la radio.
Ah bon ?
Eh oui. Eh ben voilà, c'est encore nous les hommes qu'on va être responsables. Alors contre nous, la radio, la télé, la presse écrite, les livres, internet, c'est le seul espace d'expression qui nous reste encore. Nous les hommes, on n'a plus rien. Regardez Éric Zemmour, il est obligé de passer sur tous les plateaux de télé pour dire que personne ne lui donne la parole. Et puis cette manie de vouloir tout féminiser. Et aujourd'hui sort sur les écrans Captain Marvel, la nouvelle incarnation du féminisme chez Marvel. Eh bien à la base, Captain Marvel, moi je dis ça comme ça, mais dans le comic c'était un homme. Elle est arrivée ensuite. Et c'est elle qui a le rôle, pourtant elle lui est passée devant. On est clairement devant un cas de discrimination positive. Est-ce qu'on se plaint? Non! Brie Larson, l'actrice de Captain Marvel, alors quid de la crédibilité quand t'as un nom de fromage, hein, a même créé une polémique durant la promo du film en demandant qu'il y ait une plus grande diversité parmi les critiques de blockbuster. Plus de femmes, plus de minorités visibles et surtout moins de mâles blancs hétérosexuels. Comme Delphine Ernotte qui voulait en finir avec la télévision d'hommes blancs de plus de 50 ans. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait? L'homme blanc quinquagénaire aujourd'hui, c'est une espèce en voie de disparition. C'est un panda. C'est un tout petit panda. La seule chose qui me rassure pour l'avenir, c'est qu'heureusement, on vit encore dans une société où un homme qui se sent victime des femmes a plus de temps de parole dans les médias qu'une femme victime de violence.
Une journée du droit des femmes, parfois instrumentalisée, comme par cette campagne de pub pour un détergent bio qui a fait bondir Sophia Aram.
Vous êtes un obscur pubard rêvant de refourguer de la lessive en masse, vous avez le choix. Soit vous pariez sur la qualité de la lessive en attendant que les consommateurs s'en aperçoivent, soit vous sortez une bonne grosse boulette qui tâche, du genre « à l'occasion de la journée de la femme, allez les filles, grand jeu concours pour gagner un baril de lessive !» Là, les professionnels du shocking, dont je suis, sont shocking, le pubard laisse monter le chocage et capitalise sa nouvelle notoriété dans les eaux usées mais bio de la polémique à moins de 10 euros le baril. Mais là, catastrophe! Deux jours plus tard, voilà que notre lessivier ravale sa boulette dans sa culotte toute propre en nous rappelant son implication pour les droits des femmes, blablabla, et annonce qu'il change la date de la promo. Mais c'est n'importe quoi! L'ignominie médiatique est une stratégie sans retour. Prenez Hanouna, par exemple. On peut tout à fait mettre des nouilles dans le slip d'un chroniqueur, laisser sa bande à neuneux vanter les mérites de la culture du viol ou faire des pouettes-pouettes sur les nichons des invités et recevoir les honneurs de la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est possible, parce qu'à part quelques gourdasses comme moi, que ça dérange, l'immense majorité s'en contrecogne. La réalité est là, qu'on parle de moi, en bien ou en mal, peu importe, l'essentiel c'est qu'on parle de moi.
Et cette récupération porte un nom, analyse de Nicole Ferroni.
Fatiguée de tous ces gens qui vont vouloir me choper par la foufoune pour l'utiliser à mon insu. Car oui, si le 8 mars est la journée de lutte pour les droits des femmes, c'est aussi souvent un grand festival de récupération où soudain, grandes marques et personnalités politiques utilisent femmes et foufounes pour se redorer le blason, la façade d'une touche de féminité dans un élan que j'appellerais le foufouashing. Sauf que moi, comme j'ai une foufoune, je me dis que quitte à ce qu'elle devienne un outil de propagande, autant qu'elle milite pour des choses qu'elle pense et qui lui tiennent à cœur. Donc je me suis réunie avec ma foufoune sur le canapé et on a discuté. Et je lui ai demandé, foufoune, pour toi, c'est quoi le plus important? Et donc, pour elle, le plus logiquement, c'est d'aider avant tout les plus fragiles et de traiter le plus urgent. Donc, 1. Permettre aux femmes de vivre, car on le sait, chaque année, des femmes sont, puis ne sont plus parce qu'elles sont femmes. On est à peine le 6 mars et déjà 30 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint pour cette année 2019. Et 2. Il y a ces femmes qui ne meurent pas, mais survivent à peine, car victimes privilégiées de la précarité. En effet, les femmes représentent 70% des travailleurs pauvres. En 10 ans, le nombre de femmes SDF a augmenté de 70% à Paris. Et le Secours catholique nous rapporte que chez les 20-45 ans, les deux tiers des bénéficiaires sont désormais des femmes. Donc pour ce 8 mars, plus de protection et moins de pauvreté, voilà, selon ma foufoune, des sujets sur lesquels bosser.
C'était la semaine des humoristes de France Inter, mise en onde par François Audouin. À suivre, le duel Polony-Finkelstein.
France Inter, le grand face-à-face. Le duel.
Un peu moins de 3 mois maintenant, Natacha et Gilles, avant les élections européennes. Et une question qui revient, à quoi servent ces élections? Écoutez Jean-Louis Bourlange, député Modem, qui a longtemps siégé au Parlement européen. Il était l'invité de France Inter le jeudi 28 février au matin.
Le Parlement européen est un endroit où les parlementaires sont reconnus, respectés, participent à l'élaboration de la loi. La philosophie de la démocratie européenne, qui n'est pas du tout comprise en France, c'est une philosophie héritée de Montesquieu. Vous avez plusieurs pouvoirs indépendants. Vous avez la Commission qui propose, puis vous avez le Conseil des ministres, c'est-à-dire les États, d'un côté, et le Parlement qui décide. Et ils décident ensemble, à égalité de pouvoir.
À quoi servent les élections européennes, Gilles Finkelstein ?
Le paradoxe est que plus le Parlement européen a de pouvoir, et moins il a d'électeurs. En 1979, quand a été instaurée l'élection du Parlement européen au suffrage universel direct, vous avez eu 60% de participation avec un Parlement qui n'avait à peu près aucun pouvoir. Depuis maintenant 15 ans, et c'est vrai en France et c'est vrai dans la moyenne des pays européens,
c'est vrai ailleurs aussi,
on est passé à 40% en moyenne, avec des différences très importantes selon les pays. On est à 20%, moins de 20% en République tchèque, à près de 90% en Belgique. C'est lié au fait que, par exemple, en Belgique, il y a le vote obligatoire. Mais c'est lié à un rapport différent à l'Europe. C'est lié au fait aussi, par exemple, que dans un certain nombre
c'est pas du jeu, comme disent les enfants.
Que dans un certain nombre de pays, on lie les élections au Parlement européen avec d'autres élections. En Espagne, il y aura en même temps des élections municipales. En Belgique, il y aura en même temps des élections législatives. En Lituanie, il y aura en même temps une élection présidentielle. En Irlande, il y aura en même temps un référendum sur le divorce. Donc ça explique ces différences, mais la tendance est que le Parlement européen a beaucoup de pouvoir et il a de moins en moins d'électeurs. Et pourtant, Jean-Louis Bourlange le disait et il a raison, le Parlement européen est un vrai Parlement. D'une certaine manière, il a beaucoup plus de pouvoir que l'Assemblée nationale en France. Et je crois que c'est un des enjeux de la campagne qui vient et d'essayer de faire comprendre à quoi sert ce Parlement européen.
Natacha.
Oui, mais je pense que, étant donné le moment européen où nous sommes, il faudrait que ces élections servent à la fois à faire comprendre à quoi sert le Parlement européen et à quoi sert l'Union européenne. Parce que les deux vont de pair. C'est-à-dire que, bien entendu, le Parlement a gagné en pouvoir et c'est dans un sens quelque chose d'assez intéressant. Mais malgré tout, ça ne compense pas pour l'instant le fait que l'Union européenne fonctionne essentiellement sur des instances non élues et qui ont petit à petit éloigné les peuples de la réalité de l'Europe. Donc je pense qu'il faut déjà se poser la question collectivement de ce que nous attendons d'une Union européenne. À ceci près que ce qui est en train de changer, c'est justement les appétits de certains sur ce Parlement européen, dans le sens où là, le discours, par
Comment
exemple, du Rassemblement national est assez intéressant, c'est très clair. Ce que vous explique aujourd'hui Marine Le Pen, c'est nous avons changé notre doctrine sur l'Europe, nous sommes absolument pas clairs sur l'euro ni sur des tas d'autres choses, mais c'est pas grave puisque de toute façon, notre but est d'avoir une majorité au Parlement européen en nous associant avec d'autres partis qui ont à peu près la même vision de l'Europe que nous et nous allons faire basculer les choses. Ce qui en fait est beaucoup plus complexe que ça parce que quand bien même arriverait au Parlement européen une majorité populiste qui n'est absolument pas aujourd'hui acquis ou gagné.
L'histoire n'est pas écrite.
Voilà, l'histoire n'est pas écrite mais de toute façon les institutions européennes sont telles que ce serait pas exactement comme dans les rêves de Marine Le Pen que ça se passerait. Les choses sont plus complexes que cela.
Gilles Finkelstein.
Alors, d'abord, le Parlement européen est un vrai Parlement, c'est-à-dire que c'est un Parlement qui légifère. C'est ce qu'on appelle la codécision entre le Parlement et les chefs d'État et de gouvernement. On considère aujourd'hui qu'à peu près 40% de notre législation est issue du niveau européen et donc pour une bonne partie du Parlement européen. Et
mais alors qu'est-ce que vous répondez à Natacha qui vous dit que l'Union européenne aujourd'hui et l'essentiel des décisions sont prises par des instances non élues ?
Je vais y répondre. Et simplement pour illustrer ce que ça veut dire concrètement pour les Français quand on regarde sur la législature qui vient de s'écouler, le type de décision qui est prise. Quand on interdit le plastique jetable, quand on interdit la pêche électrique, quand on modifie le régime des travailleurs détachés pour qu'à travail égal, il y ait un salaire égal.
Quand on impose le gilet jaune dans les voitures.
Quand on modifie les droits d'auteur, ça c'était un peu plus ancien. Quand on met fin aux frais d'itinérance téléphonique quand vous passez d'un pays à un autre, tout ça, ce sont des décisions du Parlement européen de cette législature. Sur l'autre point, je suis en désaccord avec Natacha Polony sur le fait que ça fonctionne sur des instances non élues. Le Parlement européen est élu, le Conseil avec les chefs d'État et de gouvernement par définition sont élus, reste la Commission.
Oui.
Un des enjeux et une des batailles de cette élection, c'est de savoir s'il y a un lien entre le vote des citoyens européens et la présidence de la Commission européenne.
Aujourd'hui, oui. La désignation ou l'élection du président de la Commission européenne est tellement compliquée que personne ne peut s'y retrouver.
Ça relève de tractations entre les États. Simplement, en effet, l'enjeu est de savoir si réellement va s'imposer le fait qui petit à petit est apparu, à savoir que c'est le chef de file du parti majoritaire au Parlement européen.
Les chefs d'État et de gouvernement veulent garder le pouvoir qui est le leur de choisir de manière la plus arbitraire possible, la plus discrétionnaire possible, disons, le président de la Commission. Pour la première fois en 2014, parce que les traités ont été modifiés et il est écrit que le président de la Commission est désigné en tenant compte du résultat des élections au Parlement, c'est-à-dire en clair, en accordant la préférence à la tête de liste du parti qui est arrivé en tête dès lors que celui-ci arrive à constituer une coalition. Comment Jean-Claude Juncker est-il devenu président de la Commission ? Eh bien parce qu'il était le chef de file des démocrates chrétiens, de la droite. La droite a gagné, les chefs d'État et de gouvernement ont été contraints de choisir Jean-Claude Juncker. L'enjeu pour les prochaines élections, c'est de rester dans ce qui a été pour moi un progrès démocratique, le fait que ce soit les citoyens qui choisissent le président de la Commission et donc que l'on ne soit moins qu'avant sur une instance
venir dire que ce sont les citoyens qui ont choisi Jean-Claude Juncker est tout de même un tout petit peu...
Un peu plus que si c'était simplement les chefs d'État et de gouvernement.
Certes, on peut considérer qu'il était le chef de file, il a surtout été porté par l'Allemagne qui le soutenait, et c'est d'ailleurs un très mauvais signal à apporter aux citoyens européens dans la mesure où c'est tout de même celui qui a imposé un système d'optimisation fiscale au cœur de l'Europe. Enfin, c'était un message catastrophique. Donc, en l'occurrence, on ne peut pas se réjouir de la façon dont ça s'est passé.
C'était un mauvais message, mais ça a été plutôt un bon président.
Question malgré tout sur les élections européennes. Pourquoi est-ce qu'il en irait autrement cette fois-ci? 58% des Français disent se déterminer sur des questions nationales au moment de voter aux élections européennes. Au fond, on parle un peu d'Europe, mais c'est pas là-dessus que ça se joue.
On en parle très peu, et lorsque vous demandez aux Français à quoi sert le Parlement européen, en fait, il y a deux problèmes dans le mot Parlement européen, il y a le mot Parlement et le mot Europe. Donc, effectivement, ils ne savent pas à quoi sert ce Parlement, et l'Europe leur semble loin, et donc on se détermine en fonction d'autres sujets. L'enjeu, compte tenu de
ce qu'est... Ça, c'est la faute de l'Europe, c'est pas la faute des citoyens.
Non, l'enjeu, mais compte tenu de ce qu'est la réalité de ces pouvoirs, c'est d'essayer de faire en sorte que les véritables enjeux de cette élection apparaissent et soient au cœur du débat, et pas simplement la question de savoir dans chaque pays quelle liste va arriver en tête.
Et puis après, il y a les bonnes intentions et il y a la réalité sur ce Parlement européen. Et il suffit de lire le travail de José Bové et la façon dont il a décrit le rôle des lobbies au cœur du Parlement européen pour comprendre que ce n'est pas parce que les citoyens l'élisent directement que ça change quoi que ce soit à cette puissance des lobbies. Et en particulier, on l'a vu récemment sur le glyphosate et sur la façon dont on a retrouvé des pans entiers des textes rédigés par Monsanto dans le rapport qui a été ensuite adopté par le Parlement européen.
Mais la question de l'interdiction du glyphosate, c'est aussi une question nationale. Là, pour le coup, c'est le gouvernement français qui a décidé de ne pas respecter ce qui avait été annoncé.
Il y a une dimension nationale, mais dans la dimension purement européenne, on s'est aperçu que les instances qui avaient été désignées pour ré- rédigé ce rapport qui devait permettre au Parlement de décider sur le glyphosate était un copier-coller absolu du travail de Monsanto. Et ça, c'est vrai dans plusieurs domaines. Donc, il y a de toute façon un nettoyage à faire dans ce Parlement européen. On a 15 000 lobbyistes à temps plein à Bruxelles. C'est quelque chose d'absolument énorme. Donc, c'est tout ça aussi qu'il faut petit à petit retravailler pour que les citoyens aient l'impression que l'Europe sert à quelque chose.
Gilles, pourquoi y a-t-il 15 000 lobbyistes ? Parce que les entreprises, elles, ont très bien compris que le pouvoir, pour une bonne partie, il était à Bruxelles. Et donc, si les citoyens ne s'occupent pas du Parlement européen, le Parlement européen, lui, s'occupe des citoyens. Et donc, c'est une raison supplémentaire pour s'y intéresser. Quant aux lobbies, ils existent au niveau européen, ils existent dans chacun des pays.
Bien
la
sûr.
Question, c'est d'avoir de la transparence.
Le grand face-à-face sur France Inter.
Il faut baisser davantage les impôts pour les ménages comme pour les entreprises. Nous avons commencé à les baisser et ils vont baisser fortement en 2019 pour les ménages en particulier. Et pour ça, il faut baisser plus la dépense publique.
Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, le 28 février dernier, il avait fait savoir que sa position sur toutes les questions fiscales était extraordinairement simple. Je cite Bruno Le Maire, « Il ne faut pas augmenter les impôts ». Ce qui est assez frappant, c'est que la question fiscale qui a été largement à l'origine du mouvement des Gilets jaunes et pendant ces derniers mois, on a beaucoup discuté de l'ISF, d'un certain nombre de taxes. La question fiscale, au fond, comment la trancher, Gilles Finkelstein ?
Notre pays a une passion, même une névrose pour la question fiscale. Je crois qu'il y a deux métiers que tous les Français rêvent d'occuper, c'est sélectionneur de l'équipe de France de football et directeur des services de la Légion fiscale, de la législation fiscale.
Vous avez une drôle de vision de la population.
Ça a été le cas dans le dernier quinquennat, avec la passion, pour le coup, du président de la République qui a lui-même inventé le CICE et qui est allé jusqu'à trancher lui-même la question déterminante de la fiscalité des poneys. Donc, c'est des choses qui viennent de loin et le quinquennat en est une nouvelle illustration. C'est à l'origine, vous l'avez dit, des Gilets jaunes. C'est un sujet clé du grand débat. Et ce qui est très frappant, c'est que cette inventivité fiscale, elle est en train de frapper le gouvernement puisque chaque jour ou presque, il y a une nouvelle proposition sur un nouvel impôt qui est faite par les différents ministres, le président de la République à chaque fois, leur faisant comprendre que le mieux serait quand même de se taire, mais ça n'empêche pas la passion fiscale. Elle est là et donc chacun y va de son idée.
Natacha ?
Oui, j'ai découvert ce matin la taxe sur les abris de jardin que je ne connaissais pas. Et encore faut-il déterminer ce qu'est un abri de jardin, quelle est la taille de la cabane, ce qu'on range dedans, etc. Donc, en effet,
mais pourquoi c'est si compliqué de réformer le système fiscal dont tout le monde s'accorde à dire qu'il est extrêmement compliqué ? Pourquoi est-ce qu'on se focalise uniquement, par exemple, sur la question de l'impôt sur la fortune ?
Parce que c'est un symbole, Natacha. L'impôt sur la fortune. C'est un symbole et parce qu'il est assez difficile de revenir sur ce symbole en disant que c'est peut-être pas la meilleure façon et qu'après tout, c'est peut-être en effet un impôt un peu bête et qu'il y aurait d'autres manières de recréer de la justice fiscale. Mais cette question de la justice fiscale est essentielle. Simplement, dans le son qu'on a passé là de Bruno Le Maire, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, il explique, en gros, voilà, et c'est exactement toute la mécanique qu'a adoptée Emmanuel Macron depuis le début du grand débat. Si vous voulez qu'on baisse les impôts, il faut baisser aussi la dépense publique. Alors, première chose, encore faut-il savoir où est-ce qu'on baisse la dépense publique. Regardez par exemple le Ford à Blanquefort qui a touché des millions au titre du CICE. Bon, il me semble que s'il faut réviser la dépense publique, je pense que là, on doit pouvoir trouver deux, trois choses. Ensuite, sur la question fiscale, il y a eu ces derniers temps des ministres pour dire, écoutez, il faut tout remettre à plat les niches fiscales. Oui, mais là aussi, la question est complexe. Qu'appelle-t-on une niche fiscale ? C'est-à-dire que si la niche fiscale, ce sont en effet toutes les niches sur les constructions de logements neufs, tout cela, le bois Pinel, etc., tout cela, en effet, mérite d'être exploré. De même, il y en a beaucoup qui font vivre actuellement les dom-tom, mais qu'il faudrait explorer aussi. En revanche, si vous comptez là-dedans les emplois à domicile, là, vous mettez en danger toute une part de l'économie. Donc tout cela n'est pas si simple, d'autant plus que, encore une fois, on évite de penser la question de la fiscalité des grandes entreprises et on part du principe que ceux qui sont les plus riches et qui peuvent partir, eux, on n'y touchera pas puisque justement, ils peuvent menacer de partir.
Gilles ?
Est-ce qu'il est possible de réformer la fiscalité ? On vient d'avoir une des réformes les plus importantes il y a quelques semaines à peine avec l'introduction du prélèvement à la source. Bon, donc, Il y a des réformes qui sont possibles. Ça a été plutôt une réforme consensuelle menée dans la durée.
Ça ne change pas le montant de l'impôt.
Pourquoi la question de l'impôt sur la fortune, pourquoi la question de l'impôt sur la fortune occupe-t-elle une telle place? Pour les raisons symboliques qu'a évoquées Natacha, et parce qu'on est au croisement de la passion française pour la fiscalité et de la passion française pour l'égalité. La question, c'est est-ce que si l'on veut plus d'égalité, l'enjeu déterminant aujourd'hui, c'est la fiscalité ou est-ce que c'est autre chose? Et je crois qu'on a tort de se concentrer exclusivement sur la question fiscale. La redistribution par l'impôt est plutôt forte dans notre pays, on peut toujours en souhaiter davantage. En revanche, ce qui ne va pas, là où les inégalités sont les plus fortes, c'est avant la redistribution par l'impôt, et c'est donc dans la répartition des revenus, et notamment dans la formation des revenus dans l'entreprise. Là, il y a un grand sujet de débat qui est très absent des Gilets jaunes, très absent du grand débat, et qui pourtant est le plus déterminant.
Natacha ?
Oui, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Simplement, il n'empêche qu'il faut poser la question fiscale et la poser en prenant tout en compte. C'est-à-dire que, encore une fois, le point aveugle, c'est que nous avons renoncé à une part des ressources fiscales que nous pourrions avoir. Quand 60 à 80 millions milliards par an partent au titre de l'optimisation fiscale, il est vrai que derrière, il ne peut plus y avoir une fiscalité correcte. Penser. Et c'est cela qui s'est exprimé dans la révolte des Gilets jaunes. C'est l'idée qu'on venait grappiller auprès de gens qui n'ont pas le choix en leur disant « on va vous faire payer la fin du monde parce que c'est de votre faute », alors qu'on exonère d'impôts sur des masses là qui sont bien plus importantes des entreprises. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'ensemble d'un système qui permet ce dumping fiscal, d'où l'importance de ce dont nous parlions à l'instant, à savoir le rôle de l'Union européenne, à savoir l'existence de paradis fiscaux au sein de l'Union européenne. À partir du moment où vous avez au Luxembourg ou aux Pays-Bas des pôles d'attraction, ou en Irlande, des pôles d'attraction qui permettent en effet cette perte de 60 à 80 milliards par an, vous ne pouvez plus mener une politique fiscale correcte.
Avant d'ouvrir le débat avec notre invité.
Oui, juste d'un mot. Là, on parle en fait des recettes qui ne sont pas là alors qu'elles pourraient l'être. Et c'est malgré tout, c'est à la fois un sujet sur lequel il y a encore beaucoup, beaucoup à faire, Natacha a raison, et c'est un sujet sur lequel il faut quand même reconnaître que beaucoup a été fait. Beaucoup a été fait au niveau international, dans la mesure où le secret bancaire n'a plus rien à voir avec ce qu'il était il y a 10 ans. Plus rien à voir. Et on a fait des progrès au niveau européen, y compris dans la période la plus récente, dans la mesure où, pour la première fois, l'Union européenne a fait une liste des paradis fiscaux qui est un peu plus robuste. On peut toujours souhaiter qu'elle le soit davantage, mais on progresse. Il reste la question des grandes entreprises, notamment les GAFA, qui réussissent à échapper à l'impôt. Et donc là, il y a un grand champ de combat à venir.
Natacha. Récemment, à Davos, on a vu un représentant je crois que c'était un représentant d'une grande banque se gausser en disant, mais enfin, connaissez-vous un seul pays au monde qui s'en soit sorti en taxant les plus riches à plus de 70%? Et un journaliste a levé la main et lui a répondu, les États-Unis, en fait. Puisque les États-Unis, jusque dans les années 70, avaient un taux d'imposition marginal pour les plus hautes fortunes qui montait jusqu'à, si je ne me trompe, 80 ou 90%. Donc, ça marche.
Absolument, ce qui pose la question dont on va débattre avec François Dubé, de ce qu'a été le cœur de l'évolution des inégalités sur les 10, 20, 30 dernières années, c'est-à-dire la concentration des richesses, non pas sur les 10% les plus riches, mais sur les 1% et parfois même sur les 0,1%. À la fois dans les revenus et dans les patrimoines.
Merci Gilles pour la transition, vous êtes vraiment bon camarade.
France Inter, le grand face-à-face, le débat.
Mais les passions tristes de l'Europe sont bien là, qui se rappellent à nous.
Et nous sommes fragilisés par les retours des passions tristes, le nationalisme, le racisme.
L'aube du 21e siècle vient rappeler combien l'histoire est tragique, combien les passions tristes sont à l'œuvre.
Spinoza à la mode, une expression qui date du XVIIe siècle et qui se retrouve souvent dans la bouche d'Emmanuel Macron. L'ère du temps est-elle aux passions tristes? Notre époque est-elle vraiment dominée par le ressentiment, la colère ou l'indignation? C'est la thèse d'un de nos grands sociologues dans un essai passionnant qui vient de paraître aux éditions du Seuil et qui décrit notamment l'effacement de la question sociale et le triomphe du nationalisme, de l'identité et de la peur. Le titre, Le temps des passions tristes. Bonjour François Dubé.
Bonjour.
Et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un grand spécialiste, entre autres, de la jeunesse, de l'école, des inégalités. Avant d'ouvrir le débat avec Gilles et Natacha, un mot d'explication pour camper le décor. On ne
comprend pas l'origine de ces passions tristes si on ne pense pas la perception des inégalités. Pas forcément les inégalités réelles, mais la façon dont elles sont vécues. Pourquoi ? Ça vous semble évident, mais nous qui ne sommes pas sociologues,
nous posons la question. C'est l'évidence de la vie sociale. Les seules inégalités qui comptent, c'est les inégalités qui sont vécues comme injustes et qui entraînent des réactions. Les autres, on les voit même pas.
Il y a des inégalités justes.
C'est une question un peu métaphysique, mais il est tout à fait évident.
C'est une question très politique. Un communiste pourrait répondre très simplement.
Non, non, la plupart des individus pensent qu'il y a des inégalités justes. Et je peux prendre l'exemple le plus banal. Corriger un paquet de copies, c'est admettre qu'il y a des inégalités justes. Enfin, je veux dire que c'est une chose extrêmement banale. Donc, c'est assez compliqué parce que entre les inégalités que l'on mesure et les inégalités que l'on perçoit, il y a une grande distance. Je veux dire, les gens ne vivent pas sur des statistiques. D'autre part, on a des écarts entre les très grandes inégalités, celles qui nous scandalisent et qui ont un impact économique considérable, les 0,1%, oui, les très grandes entreprises, etc. Mais les inégalités qui comptent pour les individus, c'est les petites inégalités qui leur pourrissent la vie, si je peux me permettre. Les inégalités entre les écoles, entre les diplômes, entre les quartiers. Bah, après tout, moi je vis dans une ville où les gens de la périphérie viennent tous les samedis parce que cette ville est trop riche et que c'est une inégalité qui leur est pénible. Donc, il faut admettre que les inégalités, c'est pas simplement des choses qu'on mesure, c'est des choses que l'on construit, que l'on perçoit, etc.
Je vais passer la parole à Natacha, c'est assez passionnant. Vous dites les grandes inégalités, c'est pas forcément celles qui opposent le plus grand nombre, les 99% ou 1% des plus riches. Ça, c'est peut-être moins important que les inégalités qui nous distinguent de ceux que nous croisons tous les jours. Et on va donc en parler des conséquences politiques, de la traduction politique de ces perceptions, de ces vécus des inégalités.
Oui, cela dit, il me semble que ce qui est apparu dans un mouvement comme celui des Gilets jaunes, d'abord, c'est le fait que, je pense que parmi ce que vous appelez les passions tristes, il me semble nécessaire de distinguer. C'est-à-dire que je ne mets pas sur le même plan la peur, le ressentiment, la frustration et la colère. Et il me semble qu'on attribue un peu trop souvent, soit au ressentiment, soit à la peur, ce qui relève de la colère, c'est-à-dire d'une forme de révolte face à une réalité qui est jugée illégitime. Or, c'est bien cela qui s'est manifesté, et il me semble aussi que ce qui était frappant au début de ce mouvement, c'était justement qu'il n'était pas dans le ressentiment vis-à-vis du voisin, qu'il sortait de ce que vous observez là, et qu'il manifestait ce besoin de justice beaucoup plus global, touchant justement les inégalités les plus criantes.
François Dubé.
Je vais répondre d'une manière un peu étrange. C'est que j'ai écrit ce livre, j'ai d'ailleurs daté le 16, donc je l'ai terminé le 16 novembre. Donc j'ai écrit ce livre sans
Gilets jaunes.
Et j'ai rajouté 10 lignes sur les épreuves en disant les Gilets jaunes arrivent, ce qui me soulage un peu, parce que faire un livre sur les Gilets jaunes, c'est autre chose.
Oui.
Bon, on recevait Edoui Plenel la semaine dernière,
voilà,
qui
c'est
s'est essayé à l'exercice.
C'est l'analyse historique, politique, c'est assez compliqué. D'abord, on ne sait pas trop qui c'est. Alors, il y a des choses, évidemment, qui correspondent chez les Gilets jaunes, ce qui fait que je suis un peu mal à l'aise avec ce livre, parce que quand je le lis, j'ai l'impression d'avoir écrit un livre sur les Gilets jaunes, alors qu'ils n'existaient pas. Mais il y a des choses qui sont communes et sur lesquelles je porte pas de jugement. Par exemple, le fait que les Gilets jaunes, comme les gens que j'ai étudiés, que j'ai écrits, vivent les inégalités comme une forme de mépris et d'agression personnelle. C'est quelque chose d'extrêmement nouveau, d'une certaine façon. C'est-à-dire que jusque-là, les inégalités étaient perçues dans des catégories collectives, les classes sociales, évidemment, nous les paysans, nous les premiers témoignages des Gilets jaunes m'ont absolument sidéré, c'est moi, mère de famille avec deux enfants qui m'en sort pas, moi avec ma voiture qui est trop chère.
Et l'individualisation des inégalités.
Et le thème du mépris, c'est-à-dire que il y a une sorte de facteurs communs dans l'expérience des inégalités qui est que c'est vécu comme une forme de mépris, d'agression. Et le mépris, c'est terrifiant parce que le mépris, c'est pas un rapport social, si je peux me permettre, mais c'est une chaîne d'interaction. C'est-à-dire, je te méprise, tu me méprises, je réagis au mépris par un contre-mépris. Et au fond, ce que nous vivons, de mon point de vue, c'est pas simplement l'explosion des inégalités, ce qui, dans le cas de la France, correspond pas en plus à la réalité.
On va en parler.
Voilà. Mais ce qu'on vit, c'est que elle change de nature.
Mais et vous ne répondez pas, Natacha, à la différence entre la colère et l'indignation. Et pour le coup, vous citez livre de Stéphane Hessel, Indignez-vous, qui relevait pour le coup d'une émotion positive, l'indignation.
Mais moi, je crois l'avoir écrit. Je dis que la colère est une indignation positive. Elle a même écrit un livre sur la rage il y a très longtemps. L'indignation est positive. Le problème, c'est qu'il faut qu'un jour, l'indignation devienne action, pratique et éthique de responsabilité. Et je crois qu'aujourd'hui, nous vivons une grande dissociation entre les indignations et les capacités d'action. Et c'est quand même ce qui nous arrive avec les Gilets jaunes, si je peux me permettre.
Gilles.
Oui, je crois que c'est très important de commencer par ce que fait François Dubé, c'est-à-dire de croiser la réalité des inégalités et la perception des inégalités. C'est très important parce que ça permet de comprendre la singularité de la situation de notre pays. Vous avez des pays dans lesquels les inégalités sont faibles et le sentiment des inégalités est faible aussi, c'est vrai dans les pays scandinaves. Vous avez des pays dans lesquels les inégalités sont très fortes, mais on vit très bien avec, je pense, aux États-Unis. Vous avez des pays dans lesquels il y a des inégalités qui sont très fortes et le sentiment que les inégalités sont très fortes, c'est vrai au Portugal. Et puis vous avez quelques pays dans lesquels les inégalités sont plutôt faibles par rapport à la moyenne, mais dans lesquels le sentiment des inégalités est extrêmement fort.
Et là vous mettez la France dans cette catégorie ?
Et là, il y a la France. Et donc ça, ce croisement réalité-perception est un élément qui est extrêmement éclairant sur la situation de notre pays.
Et pourtant, la semaine dernière, si on lisait l'Opinion, on découvrait justement une étude de l'OCDE qui en disait long sur les inégalités en France, Natacha.
Justement, parce qu'elle permet de comprendre cette question de la perception. Cette étude de l'OCDE expliquait que nous sommes un des pays où la mobilité sociale est la plus faible. Oui. C'est-à-dire qu'il faut 6 générations pour arriver, quand on part du plus bas, pour arriver à la moyenne. Or, il me semble peut-être...
6 générations, c'est extrêmement long par différence ou par comparaison avec d'autres pays.
Mais bien sûr, donc, nous sommes...
Surtout avec d'autres périodes, si
exemple pour la Suède, la Finlande, etc., le Japon. Mais c'est vrai, surtout, c'est une question de période. Et c'est ce que je voulais souligner.
Mais
il me semble
que
le pacte...
En Suède ou en Finlande ou au Danemark, il faut 2 générations quand on part des catégories sociales les plus modestes pour parvenir à s'élever socialement. En France, il faut 6 générations, 6 générations en Allemagne.
Alors, en gros, derrière, il y a la question de l'échec du système scolaire, puisque nous avons le système le plus reproducteur de tous les pays de l'OCDE, ce qui n'était pas le cas là non plus il y a quelques décennies, mais surtout, il me semble...
Surtout qu'il y a quelques décennies, on ne le calculait pas, donc c'était...
Oui, mais en revanche, on avait quelques indicateurs qui permettaient quand même de comprendre qu'il y avait une progression possible. Juste une remarque. Le pacte républicain sur lequel repose donc notre société, en fait l'acceptation de notre système politique. Le pacte républicain, il s'appuie sur des classes moyennes qui ont l'espoir de voir leurs enfants progresser socialement et appartenir un jour à l'élite. Donc cette question de la mobilité sociale est absolument essentielle. Et il me semble que ce blocage que nous observons aujourd'hui a des conséquences absolument tragiques sur la cohésion sociale et ça explique cette crise que nous vivons.
François Dubé.
Je ne suis pas totalement d'accord, enfin je veux dire, c'est un peu technique. La première chose, c'est quand il y a de la mobilité sociale, elle était structurelle. C'est pas tellement que les gens montaient, c'est que les catégories sociales montaient. Ah non, mais c'est très important.
Okay. Quelle est la différence
C'est-à-dire que c'est pas simplement des aventures personnelles d'individus, c'est les paysans deviennent ouvriers, les ouvriers deviennent employés, etc. Les femmes vont à l'école, sont qualifiées, grimpent, etc.
Non, parce que l'étude montre que ça, justement, ça continue à exister.
Ça a beaucoup existé. Je crois que la situation française aujourd'hui se caractérise d'une manière un peu paradoxale. Les transformations du capitalisme, du système économique sont tellement violentes que au fond, quand vous prenez la mobilité sociale fine, c'est-à-dire que vous prenez 15 catégories sociales, vous voyez, il y a une mobilité sociale extraordinaire. C'est-à-dire qu'on n'a plus l'assurance d'occuper la position de ses parents. Grosso modo, c'est le bordel, voilà, pour dire les choses. Et tout le monde a peur de tomber. Mais si vous prenez la belle mobilité sociale des sociologues et de l'idéologie, au fond, qui dit « je fais 4 catégories et je regarde qui monte et qui descend », c'est bloqué. Donc, vous avez le sentiment que votre situation est devenue très incertaine.
Précaire.
Incertaine, dangereuse, et d'une autre manière que vous n'avez même plus la capacité de grimper. Donc, ça rend fou, pour parler comme ça. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation paradoxale, plus rien n'est assuré, mais vous n'êtes même pas sûr de gagner. Et donc, on est dans des... Ce que j'essaie de décrire, on est dans des comparaisons au plus près, au plus proche de soi. On est dans une société où les inégalités finissent par s'atomiser et n'étant plus véritablement structurées par de grands groupes, on est dans cette espèce de comparaison permanente.
Gilles,
c'est une des évolutions, c'est vrai pour les inégalités, oui, mais ça dépasse de très loin cette question-là, dans laquelle il y a une forme d'individualisation du social. Oui. C'est-à-dire que là où, par exemple, la politisation, avant, se faisait par l'idéologie, elle se fait de plus en plus par la biographie, c'est-à-dire par ce que chacun vit, par ce que chacun voit. Et donc, on est beaucoup plus dans la comparaison avec son voisin qu'on était précédemment. Ce qui pose la question, après, de savoir de quel type d'égalité on parle. Est-ce que c'est l'inégalité des revenus? Ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est beaucoup, et parce qu'on se concentre là-dessus, c'est l'égalité des revenus. On parle beaucoup moins de ce que Éric Morin a appelé l'égalité des possibles, c'est-à-dire la mobilité sociale.
Ce qu'évoquait Natacha.
Oui, et de moins en moins aussi, alors que c'est un sujet de plus en plus, de l'égalité face à l'avenir, la peur du déclassement. C'est une des caractéristiques françaises. On est un des pays dans lequel la crainte de tomber dans la grande pauvreté est statistiquement les plus faibles, et en ressenti parmi les plus forts.
Natacha Puy-François Dubé.
Oui, mais justement, il me semble que cette question des ressentis, elle ne doit pas être prise comme simplement le fait que par le biais de passions tristes, nous regarderions trop le voisin et que nous nous construirions un film. Ça n'est pas ça le problème. Il y a une question qui est une question sociale et économique et qui se joue dans notre pays de façon peut-être un petit peu différente de ce qui peut se jouer ailleurs. D'abord parce que c'est une question qui, en France, rejoint la question géographique, et donc ça donne une répartition qui est une répartition. Certes, nous avons limité les inégalités, mais nous avons creusé les inégalités géographiques et l'enfermement dans un destin géographique. Et je pense que ça se ressent très fortement. D'abord,
François Dubé.
Oui, enfin, je crois qu'on vit là-dessus. Tout ce qu'on dit est vrai, mais aucune de ces inégalités n'est devenue structurante et explique tout. Bon, je crois qu'il y a une chose qui a changé, c'est que la conception dominante de l'égalité aujourd'hui, c'est l'égalité des chances. C'est ça le grand changement. Quand vous prenez les années 60, la grande conception de l'égalité, c'est la réduction des inégalités entre les positions sociales. Et l'école, pour parler de quelque chose qui vous intéresse...
Justement, et on va y arriver.
L'école dit, si tu es très bon, on t'aidera. Mais elle ne fait pas la promesse à chacun de grimper, et elle n'en fait même pas une obligation. Pour tout, si on n'est pas bon à l'école, on aura quand même une vie honorable. Ça, il y a un changement considérable en disant, aujourd'hui, chacun doit être responsable de son destin. L'égalité des chances est la grande figure de l'égalité. Je signale au passage qu'elle ne conteste pas les inégalités de position. Si vous accédez de manière équitable aux meilleures positions, elles deviennent justifiées, etc. Mais ça a une conséquence qui engendre une passion triste, si je peux me permettre. C'est qu'elle rend l'individu, au fond, coupable de ce qui lui arrive. Et moi, je suis très frappé dans les enquêtes que j'ai faites, c'est que les gens sont très souvent, les individus sont au fond, se sentent au fond responsables de la situation et du destin qui est le leur, ce qui provoque chacun de nous à l'unique autour de cette table, un renversement d'agression. Et je vais donner un exemple très simple. Quand je travaillais sur la sidérurgie lorraine, fin des années 70, je demandais aux gens, pourquoi vous êtes ouvriers? Ils disaient, on est ouvriers parce que nos pères étaient ouvriers et que dans la société capitaliste, on devient ouvrier. J'ai posé la question 30 ans après, les gens vous disent, parce que j'ai rien fait à l'école, parce que je suis responsable de ce qui m'est arrivé. Et donc, je rentre dans des mécanismes de détestation, d'une certaine façon.
J'ajoute un autre élément.
Restons sur l'école, Gilles.
Pour tirer ce fil des ouvriers, c'est très intéressant, sur l'individualisation qu'on évoquait tout à l'heure. La grande mutation de ces 30 dernières années, c'est que les ouvriers, il y a 30 ans, étaient... Pas seulement qu'ils étaient plus nombreux, c'était des ouvriers de la grande industrie, oui, des ouvriers des grands ensembles de travail. Maintenant, la majorité des ouvriers sont des ouvriers des services. On a publié la semaine dernière une note de la Fondation Jean Jaurès qui s'appelait Génération Cariste. C'est ce qu'on a vu aussi émerger avec le mouvement des Gilets jaunes, qui sont
l'école,
dans un rapport
Gilles.
beaucoup plus individuel.
C'est lié, cette question-là.
Natacha, elle
est très importante, parce que c'est en ça que, justement, il faut sortir de la question de la responsabilité individuelle et aller sur la question du modèle économique. La France a cru pendant des décennies qu'on pouvait construire un pays sans usine. C'était le grand projet. On allait faire du service et ça allait être merveilleux. Et on s'aperçoit que les emplois de service sont sous-payés, qu'ils sont beaucoup plus précaires que les emplois industriels et que donc on a fragilisé une part de la population. Ajoutons à cela, pour en revenir à la question de l'école,
merci,
le fait que En effet, cette question de l'égalité des chances n'est toujours pas résolue et qu'elle aboutit à une...
Qu'est-ce que vous disiez, François Dubé? On n'a pas entendu.
Elle ne le sera pas.
Elle ne le sera pas. Peut, c'est pas une réforme, celle du lycée, de parcours,
non, mais attendez, non, mais l'école elle, de la je, confiance. Je suis d'accord.
On peut faire plus ou moins bien. Mais c'est une fiction de justice, l'idée qu'on créerait une compétition totalement équitable dans laquelle les individus arriveraient sans passé, sans origine. C'est une blague.
On est entièrement d'accord. Je pense que la question de la méritocratie est une question... C'est une fiction nécessaire. Voilà. Mais c'est une fiction. Simplement... Le problème, c'est en effet la question de la culpabilité de chacun. Or, nous sommes dans un système économique qui est en permanence fondé sur la responsabilité individuelle. C'est-à-dire que on part de la promesse de l'émancipation, et c'est très frappant dans le discours d'Emmanuel Macron, par exemple, on part de cette promesse de l'émancipation et on aboutit à l'idée de la responsabilité individuelle, donc de la culpabilité, qui est un raté total.
François Dubé.
Je pense malheureusement que c'est l'autre face de la même médaille. Plus vous voulez promouvoir l'autonomie et la liberté, plus vous êtes obligé de développer le principe de responsabilité. Et au fond, c'est une morale de vainqueur. C'est pour ça qu'il faut retrouver des mécanismes sociaux et des mouvements sociaux et toutes ces choses-là qui refroidissent les colères et en font des demandes politiques.
C'est pour ça que formulez une critique du néolibéralisme ou que vous la comprenez, c'est quelque chose qui revient souvent dans nos débats.
Je n'aime pas tellement la critique du néolibéralisme quand elle couple le libéralisme culturel, l'autonomie de l'individu, le libéralisme des Lumières du 19e siècle, avec le marché. Je crois qu'il y a toujours eu, au contraire, mais je ne suis pas un spécialiste, une tension, une contradiction. C'est pour ça que je me sentais socialiste avant, entre le marché et la liberté. Bon, et d'une certaine façon, aujourd'hui, on entend beaucoup dire, à mon avis, beaucoup trop dire, que, au fond, le libéralisme culturel, c'est le cheval de Troie du néolibéralisme économique. Chose à laquelle j'ai beaucoup de mal à adhérer. Je crois qu'il faut admettre qu'il y a une contradiction. Et je vais revenir un mot sur le cas de l'école.
Oui.
Quand j'étais à l'école, il y a très 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 longtemps, la jeunesse était divisée entre ceux qui allaient au lycée et ceux qui n'allaient pas au lycée, pour des raisons, pour l'essentiel, d'origine sociale. Bon. Aujourd'hui, quand vous prenez l'expérience scolaire des élèves, elle est fractionnée sur des milliers, en tout cas sur des centaines, de clivages, de filières, de langues, de sections, de choix, d'universités. Et donc, le mode de comparaison n'est plus eux qui vont à l'école et nous qui n'y allons plus. C'est des comparaisons qui se font au plus proche de soi et qui accentue chaque fois et le principe de responsabilité personnelle, t'avais qu'à travailler, et le principe de culpabilité, si tu as échoué, c'est quand même plutôt de ta faute.
Gilles.
Oui, je crois qu'un des problèmes majeurs de la France est celui de l'égalité des chances. Et Emmanuel Macron, de ce point de vue-là, a eu une intuition juste pendant la campagne présidentielle de faire de la question de l'émancipation une question centrale. Après, le risque est d'avoir seulement la moitié de la réflexion, c'est-à-dire simplement la question de la responsabilisation du mérite, et d'oublier ceux qui, malgré tout, ne réussissent pas et dont la société doit également s'occuper. L'autre paradoxe, c'est que, alors même que le cœur du débat était l'égalité des chances, ou en tout cas Emmanuel Macron souhaitait que ce soit le débat, la politique fiscale qui l'a conduit fait que ce qui est au cœur du débat aujourd'hui, ce n'est pas l'égalité des chances, c'est l'égalité des conditions, à nouveau, avec le retour de la question fiscale dont nous débattions il y a quelques instants.
François Dubé.
Non, mais je suis d'accord là-dessus. Enfin, ce qui s'est passé n'est pas sans cause politique. Mais ce que j'observe, c'est que Gilets jaunes en Angleterre, ça se dit Brexit. Gilets jaunes aux États-Unis, ça se dit Trump. J'étais la semaine dernière en Italie, ça se dit Salvini. Quand même, la transformation des vieilles sociétés industrielles nationales en décomposition populiste autoritaire, c'est pas un phénomène.
Et justement, on va parler de la traduction politique.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le modèle de l'égalité des chances suppose toujours un impératif de justice à l'égard des vaincus. Parce que l'égalité des chances, c'est un monde de vainqueurs et de vaincus. Et c'est une question posée Rawls il y a déjà 40 ans. C'est qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ont raté? Et toute la cruauté de ce modèle, c'est quand elle dit à ceux qui ont raté, eh bien, t'as qu'à t'apprendre à toi-même. Et ce que font ceux qui ont raté dans ce modèle-là, c'est qu'ils détestent les plus pauvres qu'eux. Il faut voir les sondages qui sont quand même un peu flippants, si je me permets. Parce qu'on déteste les très riches, mais on déteste les très pauvres. Parce que les très pauvres, au fond, occuperaient, bénéficieraient d'aides dont ils n'ont pas besoin, etc. Et donc, vous êtes... Enfin, l'élection de Trump, c'est quand même des pauvres qui ont détesté de plus pauvres qu'eux.
Juste d'une certaine manière. Juste d'un mot, la traduction de ce que vous dites...
C'est quelque chose d'assez... horrible sur le plan moral ce qui est en train de se passer.
La traduction sémantique de ce que vous dites, c'est lorsque le mot solidarité est remplacé par le mot assistanat.
Ouais,
c'est exactement...
Salaud de pauvre.
C'est là, salaud de pauvre.
Natacha.
Oui, enfin, je ne pense pas qu'on puisse résumer les mouvements actuels qu'on voit naître dans différents pays à simplement la détestation du plus pauvre que soi. Je pense qu'il y a une demande, tout simplement, qui est une demande de récompense du travail. Et c'était ça le point de départ du mouvement des Gilets jaunes. C'était tout simplement l'idée qu'on devait pouvoir vivre correctement de son travail. Et que donc il y ait une justice qui soit... C'est une demande en fait, c'est de ce terme que j'employais tout à l'heure, de méritocratie. C'est-à-dire, même si on sait qu'on ne part pas tous avec les mêmes chances, même si on sait qu'il y en a qui partent avec un boulet au pied et il appartient à l'État de rééquilibrer et d'aider ceux-là, l'organisation sociale doit se faire de telle sorte que le travail soit récompensé et que ceux qui n'ont aucun mérite ne puissent pas systématiquement s'en sortir bien. C'est la fameuse phrase de Mitterrand sur ces gens qui font de l'argent en dormant. C'est ça le fond de ce qu'il y avait dans cette réforme.
Je crois qu'il y a ça, mais je crois que le mouvement des Gilets jaunes se caractérise par le fait qu'il y a tout. Il y a tout, et j'ajouterai un peu tout et n'importe quoi. Par exemple, il y a en France toute une partie de la population qui est très pauvre, beaucoup plus pauvre que les Gilets jaunes. Et cette partie de la population qui vit dans les banlieues, si elle était allée sur les ronds-points, je pense que ça se serait terminé à coups de sabre. Il ne faut pas non plus nous raconter des blagues là-dessus. Il y a de la détestation des plus pauvres que soi. Alors, je ne dis pas... Moi, je n'ai pas écrit un livre sur les Gilets jaunes. Et en plus, on ne connaît pas. Mais on voit bien quand même que quand ces gens vous disent « je suis le peuple », ce qui est quand même, moi, une phrase qui me fait toujours un très drôle d'effet, parce que nous aussi, on est le peuple, dans une large mesure.
Mais je pense que quand ils le disent, ils ne veulent pas dire que les autres ne le sont pas. Ils veulent juste dire qu'il faut qu'on se souvienne qu'ils le sont aussi.
Ça, ils disent aussi « je suis le peuple, ferme-la ». C'est quand même un petit peu ça.
Pas forcément et pas tous.
Il y a un petit... Non. Je suis allé sur les manifs, c'est un peu ça, quand même. Excusez-moi, c'est un peu ça. Et je crois qu'il y a là-dedans beaucoup plus de contradictions, beaucoup plus de conflits latents qu'on pourrait l'imaginer. C'est parce qu'une fois encore, le peuple, les acteurs, ça se construit politiquement, ça se construit socialement. C'est pas des sommes de colère. Les sommes de colère, non, ça justement. Reste des sommes de colère. Et les colères ne sont pas toutes vertueuses. J'ajouterai que le fait d'être victime d'une injustice ne vous rend pas nécessairement juste. De ce point de vue-là, il m'arrive d'avoir des difficultés avec certains de mes collègues.
Gilles.
Absolument. C'est la responsabilité de la société dans son ensemble et des responsables politiques. Natacha a raison, je crois, sur un point dans ce mouvement qui, d'une certaine manière, illustre ce que un sociologue avait appelé la France des petits moyens, c'est-à-dire ceux qui ont un travail mais des petits salaires, qui ont un problème à la fois de reconnaissance au travail et de pouvoir d'achat, auquel une pourpartie des réponses ont été apportées avec le plan de 12 milliards d'euros. Ça ne doit faire oublier ni ce qui se passe au sommet et la nécessité d'une forme de décence face à des revenus qui ne le sont pas, et ce qui se passe
en dessous,
avec le risque que les plus pauvres soient les victimes collatérales de ce mouvement. Et lorsque je vois dans le plan pauvreté, qui se fait quasiment à enveloppe constante, disons avec quelques milliards, alors même que un des enjeux, qui est un enjeu déterminant, c'est de faire en sorte que tous ceux qui ont droit aux prestations sociales y aient accès. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le taux de non-recours est de 30%, c'est-à-dire
le taux de non-recours,
c'est-à-dire que vous avez le droit au RSA et vous ne l'utilisez pas. 30% de ceux qui pourraient avoir le RSA ne l'ont pas. Si on met fin à ce taux de non-recours, évidemment, ça coûte 30% de plus pour le RSA. Si on fait ça à enveloppe constante, eh bien, ça veut dire qu'on engage la guerre des pauvres contre les pauvres.
Mais c'est une des choses qu'il faut absolument éviter. Mais pour ça, il faut se poser la question que vient d'évoquer François Dubet. Comment on constitue un peuple ? C'est-à-dire comment on fait en sorte qu'il y ait un sentiment de destin commun. Or, il me semble que le système économique tel qu'il est aujourd'hui, et que on peut appeler système néolibéral dans le sens où il repose sur une dérégulation de tout ce qui a été construit après dans l'après-guerre, c'est justement l'atomisation de tous les liens sociaux, leur destruction, pour ne plus mettre sur la scène que des individus qui donc se retrouvent en proie à l'impuissance.
Je répondrai de deux choses. D'abord sur l'évolution de la protection sociale, je crois que pendant 30 ans, on a fait une chose au fond dangereuse. On a cibler de plus en plus de public. C'est-à-dire qu'on a fait une politique pour les femmes sans enfants, pour les gens de tel quartier, pour les gens qui ont des diesels de tel âge, etc., etc. Bon. Ce qui fait qu'on a créé un système dans lequel, au fond, tous les pauvres sont en guerre avec tous les autres, parce qu'il faut se trouver dans la cible, et il faut même que des travailleurs sociaux spécialisés leur donnent accès à des droits, parce que c'est devenu d'une complexité telle que c'est illisible. Et d'une certaine façon, la sophistication des dispositifs, à mon avis, a aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous en pensez, un aspect destructeur de ça. C'est devenu illisible, de façon telle d'ailleurs que ceux qui payent des impôts finissent par penser qu'ils payent pour rien, et que ceux qui reçoivent, et beaucoup de gens reçoivent, finissent par penser qu'ils ne reçoivent rien. Donc je crois qu'un des gros enjeux quand même, c'est de reconstruire l'idée, je vais employer un langage totalement archaïque, mais qui a un contrat social derrière tous ces systèmes de redistribution, image qui a à peu près complètement disparu. Quant à l'idée de la reconstruction du peuple, aujourd'hui je vous rappelle qu'il y a des gens dont c'est le job et qui ont construit des partis qu'ils assument pleinement comme populiste, en disant on va créer un peuple, le peuple c'est les travailleurs.
Non, mais... C'était pas ça que j'entendais, c'est oui, justement la constitution d'une communauté nationale avec un intérêt commun.
Ils disent c'est les travailleurs, c'est la nation et c'est le peuple souverain contre la démocratie représentative. Et vous avez ça aujourd'hui qui se répand. Non.
Ça ne se résume pas à ça, l'existence d'un peuple, ça ne se résume pas au parti populiste.
Je ne vous dis pas que ça se résume à ça, mais je veux dire qu'aujourd'hui, à la question que vous posez, il y a en Italie, en France, en Allemagne, à peu près partout, des acteurs politiques qui ont cette réponse.
Mais justement, disent, peut-être qu'il est intéressant d'en construire une autre.
Je vous le construis, on retrouve la classe ouvrière d'avant, ce qui est un fantasme évidemment à peu près, on va retrouver une nation homogène, de la même couleur et de la même...
Pour le dire d'accord, mais du coup, voilà. Quel contre-modèle
on va retrouver
comment,
un peuple
qu'est-ce qu'on propose comme contre-modèle
peuple,
c'est ça qu'il faut se poser comme question.
Qui se débarrasse de la démocratie parlementaire. Je dois dire que ça n'a pas ma plus grande sympathie.
Gilles.
Je reprends François Dubet, non pas dans ce livre-là, mais dans un livre précédent pour faire mienne, en l'interprétant peut-être un peu, la thèse qu'il défendait. Natacha dit, comment crée-t-on le sentiment d'un destin commun? Pour dire les choses autrement, c'est quoi l'identité, mot à la mode, de notre pays. Et souvent, on oppose cette question de l'identité au débat sur l'égalité. Et ce que montrait précédemment François Dubet, c'est qu'il y a un lien entre l'identité et l'égalité. À la fois, quand on interroge les Français, quels sont les éléments constitutifs de l'identité française ? Il cite tous les éléments du système de protection sociale, d'État-providence et d'égalité. Et inversement, l'égalité crée de l'identité, c'est-à-dire le sentiment de quelque chose de commun. Ça ne veut pas dire l'égalitarisme, ça ne veut pas dire tout le monde, mais qu'on reste dans ce que Orwell appelait une société décente.
Et malgré tout, François Dubet, vous dites qu'il y a un effacement de la question sociale, alors qu'on a beaucoup parlé de ça.
Je ne dis pas qu'il y a un effacement
de la question sociale. Vous l'écrivez, je vous cite pour le coup.
Non, ce que j'essaie de dire, c'est que j'ai une vision un peu historique des choses. Bon, très simplement, je veux dire, au fond, pendant un siècle, on a eu une représentation des inégalités, au sens représentation sociologique et représentation politique. Ça a été assez long à fabriquer, d'ailleurs, autour des classes sociales. Bon, je dis les choses très, très grossièrement, nous les ouvriers, nous les... etc. C'était à la fois une vision de la vie sociale. D'ailleurs, les catégories de l'INSEE étaient des catégories, de ce point de vue-là, qui reprenaient ça. Et c'était une manière d'organiser la vie politique. La droite et la gauche étaient grosso modo ça. Et ce qu'on observe, c'est qu'avec le néolibéralisme, la mondialisation, tout ce qu'on voudra, Internet, enfin, il y a toute une série de causes diverses et variées, ce monde est en train de disparaître. Et ce qu'il y a à la place, aujourd'hui, je ne pense pas que c'est pour l'éternité, ce qu'il y a à la place, il y a des individus qui reçoivent les inégalités comme une agression, comme une insulte, et qui deviennent un peu fous, quelquefois. Ce qui fait que des pauvres vont voter pour des milliardaires au nom de la haine de plus pauvres.
Ça, c'est le paradoxe américain.
Que l'on va dire, on n'aime pas les immigrés, on sort de l'Europe, et puis une fois qu'on est sorti, on ne sait plus quoi faire. Que des gens du nord de l'Italie vont voter nationaliste parce qu'ils détestent les gens du sud, et vont faire une alliance avec eux, dont on se demande comment elle va durer. On est quand même dans une situation...
François Dubet, la façon dont vous présentez les choses semble mettre la responsabilité sur ces gens qui détesteraient les plus pauvres qu'eux. Or, il me semble que la responsabilité est à chercher dans l'organisation économique qui crée, exactement comme le disait Gilles Finkelstein, des inégalités qui ne permettent pas la constitution d'une société
décente et vivable. Voter contre ses intérêts et pourquoi des personnes dans le besoin vont voter pour un milliardaire qui a une politique qui favorise les plus riches.
Je crois qu'il y a une question de vocabulaire entre nous. Je ne pense pas que les individus sont responsables. Mais je crois que ce qu'on appelle le système, c'est quand même la somme de l'action des individus qui le composent. Et qu'il faudrait un jour que l'on accepte de dire mais que, et bien sûr, il y a des dominants.
Les individus
bien sûr,
dont nous parlons n'ont pas choisi le système dans lequel ils sont.
Oui, mais dans une certaine mesure, ils jouent dans le jeu tel qu'il leur est donné. Dans une certaine mesure, ils privilégient des intérêts, pas d'autres. Alors, je ne dis pas, évidemment, que nous sommes tous égaux dans ce jeu.
Pardon, mais la dérégulation financière n'a pas été acceptée.
On va devoir s'arrêter là.
N'a pas été acceptée démocratiquement par les peuples, et c'est bien le problème.
On est dans une phase de mutation considérable et donc de déstructuration des clivages politiques qui ont perdu toute lisibilité pour les Français. La démocratie, c'est de donner forme au débat public, et je crois qu'un des enjeux, c'est de redonner une forme compréhensible pour les citoyens au débat public.
Le mot de la fin ?
Non, moi je crois qu'aujourd'hui l'enjeu, bon, est évidemment social, mais l'enjeu est fondamentalement politique. On ne peut pas rester dans un espace politique qui ne représente plus rien. Voilà.
Merci François Dubé. Le temps des passions tristes, sous-titre Inégalité et populisme, s'est publié aux éditions du Seuil dans l'excellente collection La République des idées, Natacha et Gilles, à samedi prochain. Merci à Mathilde Clatt qui a préparé cette émission, à la réalisation David Leprince, à la technique Kevin Pelot. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain midi pour Questions politiques. À suivre, les secrets d'info de Jacques Monin.